Vous êtes sur RTL.
7h45, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Elisabeth Martichoux, vous recevez ce matin Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes Publics.
Un ministre sans doute soulagé ce matin. Bonjour Gérald Darmanin.
Bonjour.
Vous avez le chiffre du déficit de 2,5% l'an dernier. C'est un bon chiffre pour vous ?
Alors, c'est toujours mieux d'être à zéro, mais effectivement, la politique économique du président de la République fonctionne et fonctionne bien. Lorsque j'ai été nommé ministre des Comptes Publics, avec Bruno Le Maire, nous avons vu, la Cour des comptes l'a dit, que l'État avait un déficit de 3,4%. Désormais, nous avons un déficit de 2,5%, c'est-à-dire à peu près un point de moins, l'équivalent de plus de 10 milliards d'euros d'efforts que nous avons faits. Il faut toujours continuer notre travail, la dette s'est stabilisée, alors même qu'on y a mis la SNCF à l'intérieur, donc en fait, elle a baissé. Les exportations s'exportent, ils sont supérieurs aux importations en 2018. Les consommateurs ont consommé, et les entreprises ont pu, sur les marchés, mettre beaucoup d'investissements. Et le gouvernement, je crois, par sa politique fiscale, par sa politique économique, permet d'avoir des résultats. Il faut continuer cet effort, évidemment, puisque nos comptes publics, vous le savez, sont toujours dégradés. Mais pour la première fois aussi, Madame Martichoux, la dépense publique baisse en volume. C'est-à-dire que la dépense publique, pour la première fois depuis 30 ans, nous sommes passés de 55 à 54,4%. C'est-à-dire en pourcentage général de notre richesse nationale, pour la première fois, nous faisons moins évoluer nos dépenses publiques que notre inflation. C'est-à-dire que nous avons baissé nos dépenses publiques.
Mais grâce à la croissance aussi, c'est un résultat. Est-ce que vous avez un chiffre définitif sur la croissance de l'an dernier d'ailleurs ?
Alors l'année dernière, nous avions en fin d'année prévu avec tous les instituts d'être autour de 1,5% de croissance, ce qui était déjà un chiffre assez élevé. Nous serions normalement autour de 1,6%, on aura confirmation ce matin.
Quand je dis grâce à la croissance, c'est pas tout à fait ça, puisque précisément il y a eu un ralentissement de la croissance, mais il est établi, vous le dites ce matin, à 1,6% pour 2018.
Aux alentours de 1,6% manifestement, de même que le déficit sera effectivement aux alentours de 2,5%. Ce sont des bons chiffres qui accompagne la dynamique voulue par le président de la République. Je crois que quand on se pose la question sur est-ce que la fiscalité est juste, est-ce que ce que a fait Emmanuel Macron est juste, on s'aperçoit surtout que ça fait baisser le chômage, que ça rétablit les comptes publics, que ça remet du carburant dans la machine économique. Et quand on regarde ce qui se passe notamment en Italie ou dans d'autres pays autour de nous, on s'aperçoit qu'on a eu raison de faire notre politique économique.
Enfin, il y a des pays européens qui arrivent davantage à baisser leur déficit. C'est mieux que si c'était pire, c'est vrai. C'est mieux tout court qu'il y a certaines années, Gérald Darmanin. Il reste que nous demeurons quasiment les champions du monde des prélèvements obligatoires et qu'on reste déficitaire de façon sensible.
Ah, mais de toute façon,
on n'arrive pas à arriver à une décrue sensible de ce déficit.
Ah bien sûr que si, puisque encore une fois, baisser d'un point le déficit en deux ans, passer de 3,4 à 2,5, c'est quand même une performance. Mais c'est vrai qu'il faut continuer nos efforts. Mais pour la première fois depuis 20 ans, Madame Martichoux, vous avez un gouvernement qui baisse ses dépenses publiques. Ça fait deux ans désormais qu'on me dit tous les matins il faut baisser les dépenses publiques. Il y a ceux qui le disent et il y a ceux qui le font, comme dirait la publicité. Et on baisse ce déficit, plus d'un point. Nous avons stabilisé la dette en la sincérisant, puisqu'on y a mis la SNCF. Il faut bien sûr continuer à baisser notre dette, c'est un point très important. Et nous avons baissé les impôts. Ce que dit également l'INSEE, vous le constaterez, c'est que nous sommes le gouvernement qui avons le plus baissé les impôts. Il faut continuer à le faire, bien sûr, il ne faut pas s'arrêter au milieu du chemin.
Mais pour baisser les impôts, pour baisser les impôts sensiblement des Français, il faudrait réduire les dépenses, et notamment les dépenses sociales qui constituent, rappelez-moi, 60% de la dépense publique. Est-ce qu'on peut espérer réduire le déficit sans toucher à ce poste-là?
Mais il faut baisser toutes les dépenses publiques en se posant la question de savoir est-ce qu'elles sont utiles ou est-ce qu'elles ne sont pas utiles. Mais c'est ce que nous faisons sur les dépenses sociales. Lorsque nous réformons l'assurance chômage, évidemment, le but n'est pas un but budgétaire. Ce serait idiot de dire il faut d'abord faire des économies. Il faut d'abord que l'assurance chômage permette aux gens d'être bien indemnisés et surtout encourage les gens à reprendre un travail.
Mais
c'est ce que nous faisons.
Regardez les retraites, ça reste quand même une piste quand on sait. Quand je dis qu'il y a 60% de la dépense publique qui est constituée par les dépenses sociales, c'est essentiellement les retraites et la santé. On va dire.
Et
la santé et les prestations sociales. Ouais. Mais donc les retraites, est-ce que vous fermez la porte complètement à une hausse de la durée des cotisations, par exemple, dans le cadre de la réforme Delevoye ?
Non, mais moi je suis toujours partisan de réfléchir lorsque les gens font des propositions intéressantes. C'était le cas d'Agnès Buzyn. Il y a deux choses dans les retraites. Il y a la réforme Delevoye, la réforme par points, celle qui en 2030 va s'équilibrer, qui passe d'un régime par répartition à un régime par points.
Qui mettra fin
aux caisses de retraite particulières.
Et qui supprime les régimes
Il y en a 43 dans notre régime.
Il y a 42 régimes. Est-ce que ce sera...
Madame Martichoux.
Non, pardon, juste une question, parce que c'est vrai qu'on a du mal à s'y retrouver. Est-ce qu'il faut tenir sur la promesse d'Emmanuel Macron de supprimer les régimes spéciaux, ou est-ce qu'il y a des régimes spéciaux qui vont survivre à la réforme ?
Votre émission dure 10 minutes, vous m'avez posé 3 questions en 20 secondes sans que je puisse terminer ma phrase. Non, mais vous m'avez demandé d'abord si j'étais favorable à l'allongement de la durée. Je vais peut-être essayer de vous répondre. Pas dans le cadre de la réforme Delevoye. Dans le cadre de la réforme Delevoye que Jean-Paul Delevoye travaille, il y a effectivement la fin de tous les régimes particuliers, parce qu'il y en a 43, plus personne ne comprend rien et c'est compliqué.
Tous les régimes.
Mais il aura l'occasion lui-même de l'exprimer. Et à partir de cet été, me semble-t-il, la France, le Parlement, vous-même aurez l'occasion largement d'en parler pendant quasiment un an. Et puis, il y a la possibilité, indépendamment de la réforme Delevoye, que le Premier ministre a laissé ouverte, si je l'entends bien, de se dire, effectivement, est-ce qu'on doit, pour certaines personnes, travailler plus longtemps ? Parce que, effectivement, nous travaillons tous plus longtemps parce que nous vivons plus longtemps. C'est le cas de tous les pays européens autour de nous. Moi, je pense qu'il ne faut pas s'interdire cela.
Oui, juste, je repose ma question, mais vous venez d'y répondre en partie. Vous dites qu'il faut supprimer tous les régimes spéciaux.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que le président de la République a demandé à Jean-Paul Delevoye de faire un système par points simplifié. Aujourd'hui, il y a 43 caisses pour en avoir qu'une seule. Maintenant, je ne suis pas en charge des retraites. La ministre en charge des retraites, c'est Mme Buzyn. Mais ce qui est sûr, c'est que M. Delevoye y travaille, un régime simplifié qui s'équilibre.
Et vous êtes en charge, en revanche, du budget 2019. Il va être compliqué. À combien vous situez le déficit, à votre avis ?
Non, mais chaque année, on m'explique que le budget sera compliqué. Donc, ça sera mon troisième budget.
Doublement du CICE, les 10 milliards d'Emmanuel Macron a mis sur la table en décembre, plus la sortie du grand débat. Ça ne fait pas beaucoup plus de dépenses ?
Alors, si je puis me permettre, ce n'est pas le cas. Le doublement du CICE, on a fait cet effort cette année. Il est fait, le doublement du CICE. Aujourd'hui, nous serions à 2% de déficit si effectivement nous n'avons pas fait le double compte CICE. Mais on a fait quelque chose de bien pour les entreprises et les employés de France, puisqu'on a baissé la charge du travail, on a baissé les cotisations, et notamment les cotisations patronales, plutôt que de donner des subventions aux entreprises. Nous allons faire un budget qui permettra en 2020 de pouvoir tenir le rétablissement de nos comptes publics. Et moi, je constate que quand on passe de 3,4 à 2,5 et désormais de 3,4 à 2% de déficit, j'aurais été, avec Bruno Le Maire, le ministre qui a baissé le plus ce déficit dans l'histoire de la Ve République.
Vous allez trouver quoi comme recette ? Augmenter les impôts ?
Alors, je pense qu'il y a un mot qu'il faut mettre avec impôts, c'est les baisser. Voyez ? Donc moi, je suis pour baisser les impôts. Et quels que soient les impôts, et quelles que soient les personnes qui me le demandent. Parce que je pense que les Français considèrent qu'il faut payer l'impôt, c'est important pour la solidarité nationale, mais il ne faut pas non plus décourager le chaland. Et je pense que c'est très important. C'est très important de baisser les impôts.
On n'a toujours pas compris où vous trouviez les économies. On a un rapport. Vous avez commandé un rapport à l'inspection générale des finances sur le temps de travail des fonctionnaires. D'ailleurs, par parenthèse, vous commandez un rapport, pourquoi ? Vous ne savez pas combien, quand, à quel rythme travaillent les fonctionnaires ?
Ah, on ne connaissait pas exactement la photographie du temps de travail des agents publics.
Mais on peut imaginer ça.
Il y a à peu près un petit peu moins de 5 millions d'agents publics. Il y en a un petit peu moins de 3 millions pour l'État.
On ne sait pas précisément d'ailleurs, très très précisément combien de fonctionnaires.
Les choses bougent. Il y a 120 000 départs en retraite chaque année, par exemple. Et puis il y a des gens sont embauchés, évidemment, c'est tout à fait normal. Ce qui est vrai, si vous voulez me faire dire que l'État doit être un meilleur DRH, vous avez tout à fait raison. C'est ce qu'on travaille avec Olivier Dussopt, notamment dans le projet de loi que nous présentons mercredi au Conseil des ministres. Sur ce rapport, il est intéressant, nous le regardons, il va nourrir sans doute le débat parlementaire.
Il tombe à pic, hein ?
Si je comprends bien, ça fait depuis février que je l'ai, mais personnellement, je considère qu'effectivement...
Il fuite de façon opportune, justement, à la veille de la présentation de la réforme de la fonction publique.
Mais il n'est pas scandaleux, ce rapport, contrairement à ce que je peux dire, puisque sur le rapport sur la fonction publique d'État, par exemple, on a mis en dehors les professeurs, qui ne font pas 35 heures, ce qui est bien logique, puisqu'ils ont un temps de travail particulier, du fait de leur travail particulier.
Ni les profs, ni les magistrats, ni les gendarmes, ni les policiers, ni les collectivités locales, ni les hospitaliers.
Si, il y a les collectivités locales. Sur 1 million, mais c'est marrant, tout le monde commente un rapport qu'il n'a pas lu, mais je vous l'enverrai avec grand plaisir. Il y a un million...
Non, je ne l'ai pas moi, mais je l'ai lu dans l'article du Figaro.
Ah, mais il ne faut pas toujours croire exactement ce que dit la presse à l'euro près. Il y a des moments où peut-être on peut discuter, avoir une opinion différente. Vous me posez la question, j'y réponds. Il y a 300 000 agents sur le million d'agents publics en dehors des professeurs qui ne feraient pas de 35 heures que nous connaissons les uns et les autres. Sur ces 300 000, il y en a 190 000 dont le rapport dit qu'ils ne le font pas pour des mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'il y a des gens parce qu'ils travaillent le dimanche, parce qu'ils travaillent la nuit, on peut comprendre pourquoi ils ne font pas 35 heures. Et puis il y a 190 000 dans l'État où on se dit, on ne comprend pas très bien pourquoi ils le font. La question se poserait, s'ils faisaient 35 heures, ce serait l'équivalent de 30 000 fonctionnaires.
Alors, on découvre.
30 000 fonctionnaires en plus. Pour la fonction publique territoriale, vous m'avez posé la question, ce serait 35 000 fonctionnaires en plus. Vous aurez constaté que 30 000 plus 35 000, c'est plus de la moitié des 120 000 que nous évoquons.
C'est aussi mécanique que ça.
Bah, il faut qu'on travaille, bien sûr que non, c'est pas aussi mécanique que ça, il y a des discussions, peut-être que le rapport se trompe sur certains aspects, c'est pour ça que
vous allez recommander un autre rapport.
On va en discuter avec les organisations syndicales et avec les agents publics.
Par exemple, cette particularité, on considère qu'un fonctionnaire a travaillé un jour férié s'il était à son poste la veille ou le lendemain à l'Éducation nationale. En dehors des profs, hein, puisque ça ne concerne pas les enseignants.
Non, ça peut être les psychologues scolaires, par exemple.
Bon, donc un fonctionnaire, on considère qu'il travaille le 14 juillet, s'il était à son poste le 13 ou le 15 juillet. Bon, ça fait partie. Parce que la question qu'on a envie de vous poser, Gérald Darmanin, c'est qu'est-ce que vous en faites de ce rapport? Par exemple, ça, il faut supprimer ce particularisme-là?
Alors moi, je trouve normal que dans la fonction publique d'État comme dans la fonction publique territoriale, on fasse 35 heures, si vous me posez la question. Après, il peut y avoir des questions particulières.
Une semaine Malraux, ministère de la Culture, ça date depuis 40 ans, c'est normal, vous la supprimez ou pas, Madame Martichoux,
c'est ce qui peut se passer dans plein d'entreprises. Peut-être qu'à RTL, il y a un certain nombre de conditions particulières de travail, c'est vos organisations syndicales qui en parlent avec votre patron, c'est tout à fait logique. Donc moi, je ne vais pas faire une revue de détails devant vous, parce qu'il faut respecter chacune des personnes qui travaillent.
Est-ce que vous trouvez ça normal, si vous l'avez commandé ce rapport, c'est pour en faire quelque chose.
Je viens de vous dire, Madame Martichoux, que je vous ai dit que je trouvais normal de faire 35 heures. Sauf circonstances particulières, donc on en discutera. Et dans le débat parlementaire, je souhaiterais que dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale, les fonctionnaires fassent 35 heures, comme tous les Français qui travaillent dans une entreprise. Il peut y avoir des circonstances qui font qu'ils ne font pas 35 heures. Ils travaillent la nuit, ils travaillent le dimanche. C'est particulièrement pénible, mais en tout cas, effectivement, ce rapport va nous aider à travailler, à faire travailler 35 heures toute la fonction publique.
Juste un tout petit mot sur la petite phrase du président sur Geneviève Gay, cette militante de 73 ans qui a été bousculée dans le cadre d'une évacuation sur une place qui était interdite à la manifestation. Elle est devenue quasiment une martyre. Par exemple, notre Geneviève, écrit Éric Mélenchon sur Twitter. Mais cela dit, est-ce que le président n'a pas eu tort de rajouter à sa manifestation d'empathie une petite phrase qui a choqué, notamment la famille, qui a parlé d'indignité?
Oui, enfin non, je ne crois pas. Le président de la République, il a à la fois eu la compassion pour cette dame et surtout, il a rappelé quelque chose qui me paraît assez évident, c'est que quand c'est interdit de manifester, il ne faut pas aller manifester. Le procureur de la République de Nice lui-même, j'ai regardé sa conférence de presse, évoquait que cette dame, dont je souhaite le prompt rétablissement évidemment, a été non pas poussée par les forces de l'ordre, parce qu'au début, c'était un peu ce que semblait dire une partie des gens qui elles sont du côté manifestement d'un certain nombre de gilets jaunes, mais par d'autres manifestants. Donc il faut respecter la police, respecter les institutions, avoir la compassion bien sûr pour cette dame, et puis rappeler un truc tout bête, quand il est interdit de manifester, il ne faut pas aller manifester.
Du côté de l'ordre, Gérald Darmanin, ce matin sur RTL.
Ça ne gênera pas.
Et l'intégralité de l'entretien est à retrouver sur le site rtl.fr, comme Cyprien Signy, avec qui nous avons rendez-vous dans un petit instant.